Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine, saison 1, épisode 4. Alors après avoir passé 2 semaines en Amérique centrale et du Nord, on va redescendre vers l'Amérique du Sud et on va se poser sur les hauteurs de La Paz. Oui, on va aller en altitude et en Bolivie donc pour le Clásico Paceño qui oppose ce dimanche à 22h15 heure française. Donc une fois encore, hein, vous n'aurez pas l'excuse du décalage horaire. Donc le Clásico Paceño qui oppose The Strongest à Bolivar. Alors vous allez voir que ça n'a pas toujours été le cas, on va y revenir dans un instant. Donc ce sera l'un des chocs, hein, l'un des événements, c'est toujours l'un des événements d'une saison en Bolivie, l'affrontement entre ces deux géants, deux clubs historiques, deux clubs aux histoires surtout bien différentes, et on va le voir tout de suite en faisant un petit peu justement de rappel historique de d'où viennent ces clubs-là. Comme dans de nombreux autres pays sud-américains, le football arrive en Bolivie grâce aux Britanniques, oui, comme presque partout. Alors que le 19e siècle vit ses dernières années, hein, touche à son terme, le pays, la Bolivie, tente de se remettre du désastre qu'a été la guerre du Pacifique, qui est une guerre qui a opposé le duo Pérou-Bolivie au Chili et qui a été perdue. Hein, c'est à cette occasion que la Bolivie va perdre l'accès à la mer, notamment. On en a déjà parlé sur Lucarne opposée. Le pays tente de se remettre de ce désastre et la domination économique des villes du sud commence à toucher à son terme. Et on voit des cités comme Oruro ou La Paz qui commencent à émerger. Et elles émergent aussi grâce au réseau de chemin de fer qui est en train de se construire, et c'est grâce à ce réseau de chemin de fer que le football va se répandre un peu partout en Bolivie. C'est ainsi qu'Oruro va accueillir le premier club de foot au pays, le Oruro Royal, en 1896, et La Paz, elle attend véritablement de connaître son expansion économique au début du 20e pour justement voir les premières équipes arriver. Alors, les premiers sont les Bolivian Rangers en 1901, et ils sont suivis en 1906 par un club nommé le Thunder. Alors s'ils sont les premiers à jouer un match interdépartement entre 1906 et 1907, enfin le match aller en 1906, le match retour en 1907, oui, enfin c'était difficile de se déplacer à l'époque, donc ils jouent face à Oruro Royal, l'histoire du Thunder va pas durer bien longtemps puisque l'année suivante, le club disparaît, faute de parvenir à conserver justement ses joueurs. Mais ce sont sur ces cendres que le The Strongest va naître. En effet, quelques mois après la disparition, des anciens joueurs du Thunder, mais aussi d'un autre club nommé 20 de Octubre, se réunissent et décident de véritablement créer un club solide, un club pérenne, un club qui va rester. Alors vous imaginez que comme il est solide, ils vont lui trouver un super nom, ils l'appellent le Strong Football Club, qui va très très rapidement devenir The Strongest, en toute modestie. Alors il va garder un héritage du Thunder, c'est la couleur du maillot, rayé de jaune et de noir, qui représente les couleurs de la révolte, tout simplement. Le jaune c'est le jour, le noir c'est la nuit. Et il va juste faire tourner à 90 degrés les bandes rayées, elles vont passer d'une position horizontale à verticale. Et donc The Strongest participe aux compétitions qui sont organisées par la municipalité de La Paz pendant quelques saisons. Il connaît son premier rival, Nimbres Sport Association. Et voilà, le football s'organise, on est au milieu des années 10, et sous l'impulsion des deux grands rivaux, La Paz va devenir l'une des places fortes puisqu'elle va créer son association de football, la première en Bolivie. Le premier championnat amateur voit le jour, The Strongest va clairement l'écraser pendant ses 35 années d'existence. Il va en décrocher 13 titres, dont 7 des 8 premiers, donc c'est dire à quel point il porte bien son nom à ce moment-là. Et donc des rivalités vont naître à La Paz entre The Strongest, Colegio Militar et l'Universitario de La Paz. Mais ça, on va en y revenir dans quelques instants. Et il va ensuite, dans plusieurs années plus tard, voir émerger son futur grand rival, le Bolivar. Mais on n'y est pas encore. Et vous allez voir que The Strongest, lui, va marquer l'histoire avec un grand H du football, du pays. Donc non seulement l'histoire du football bolivien, mais aussi la grande histoire de la Bolivie. En 1932, la guerre du Chaco va éclater entre la Bolivie et le voisin paraguayen. Elle va durer 3 ans et, pour ceux qui ne le savent pas, cela reste l'une des guerres les plus meurtrières du XXe siècle. Et évidemment, pendant cette période, The Strongest suspend sa participation aux compétitions, mais il va plus loin puisque ses joueurs, ses dirigeants et certains de ses supporters s'enrôlent directement dans l'armée bolivienne pour défendre le pays et participer au conflit. Et ils vont former un bataillon qui va être extrêmement actif, et notamment en 1934, où il va remporter la bataille de la Cañada Esperanza, qui est le plus grand succès de l'armée bolivienne pendant cette guerre, et qui va être donc ensuite rebaptisée la bataille de Cañada Strongest, en raison justement de la participation de ces joueurs-là, dont José Rosendo Bulhain, qui était l'une des idoles du club sur le terrain et qui est devenu un chef de guerre pendant le conflit. Et il veut, la légende veut à ce moment-là, que au moment de sa mort, hein, lors de cette célèbre bataille, c'est aussi pour cela qu'il est resté dans l'histoire, il va entonner le fameux Kanatakaya Uari Kasaya, le cri de guerre de l'époque et qui est devenu au fil des années le cri de guerre des supporters de The Strongest. Et ce cri de guerre, il est le symbole de la résistance. On résiste jusqu'au bout. Et si vous ne le connaissez pas d'ailleurs, bah vous savez quoi ce qu'on va faire? Je vais juste vous le faire écouter. Alors tendez bien l'oreille, ça dure quelques instants. Voilà à quoi ça ressemble. Alors une fois la guerre finie, le club revient sur le terrain, évidemment, et il va se faire aussi connaître par des matchs qu'il va jouer face à des géants du continent. Il va faire tomber par exemple l'Independiente de la star Arsenio Errico. Alors vous savez peut-être hein, qu'il y a un lien aussi d'ailleurs avec la guerre du Chaco et l'histoire d'Arsenio Errico. On y reviendra, mais je vous mets le lien vers l'article sur Lucarne Opposée qui parle de cela. Et donc le club alors va s'associer à l'image du Tigre en 1941, avant l'année suivante d'en passer 9 à Estudiantes. C'est un record hein, pour un club bolivien qui tient encore face à un géant argentin, bien évidemment. Alors les rencontres internationales que dispute The Strongest le placent clairement dans le paysage du continent, de Botafogo au Cerro Porteño, en passant par le Millonarios de Di Stefano, tout le monde va venir jouer un jour ou l'autre, et surtout ne pas s'imposer face à The Strongest, qui va même aller s'amuser à défier des Européens, comme Tbilissi ou l'Atlético Madrid. Sa capacité à résister jusqu'au bout, hein, qui est donnée par ce cri de guerre, The Strongest va la démontrer à deux reprises, à deux occasions qui sont de pures tragédies qui vont se dérouler à moins de 20 ans d'écart. Le professionnalisme arrive au début des années 50 hein, en Bolivie, et notamment à cause d'un match absolument catastrophique contre l'Uruguay en Coupe du Monde, une défaite 8 à 0. Et donc il y a une organisation, les clubs décident de tout changer pour, voilà, pour remettre en place leur football. Et voilà, le club The Strongest reste quand même, ne change pas de statut, il reste à jouer les premiers rôles. Et justement, il va vivre sa première tragédie le 18 janvier 1853. Il est alors champion en titre et il est invité par la fédération bolivienne à disputer un match amical à Cochabamba face justement à la sélection nationale qui, elle, prépare le Campeonato Sudamericano qui va se jouer au Pérou. Et au lendemain du match qui a lieu le 17, donc au lendemain de ce match, on est le 18 janvier, cinq membres, dont quatre joueurs cadres hein, des Tigres, décident de rentrer à La Paz en voiture. Malheureusement pour eux, Ezequiel Calderón, Raúl Reynoso, Eusebio Martínez et Alberto Ramírez, ainsi que le kiné du club, Alberto Molina, vont périr, puisque le véhicule tombe en panne au milieu d'une voie de chemin de fer, et devinez quoi, un train arrive au même moment. Alors, trois d'entre eux décèdent, et le club est vraiment sous le choc, et il va avoir un petit peu de mal à s'en remettre. La deuxième tragédie a lieu moins de 20 ans plus tard, 16 ans plus tard à peu près. Un peu plus de 16 ans plus tard, pour être précis. Le 26 septembre 1969, c'est l'équipe au complet qui rentre dans un tournoi amical qui est organisé à Santa Cruz. Toujours un tournoi amical ou un match amical. Ce jour-là, à 14h, 16 joueurs et l'encadrement technique, donc l'ensemble du groupe, montent à bord d'un avion, un Douglas DC-6B. Et une heure plus tard, la tour de contrôle de Trampillo perd son signal. On retrouvera donc l'avion écrasé à 4000 mètres d'altitude dans une zone totalement inaccessible aux sauveteurs aux alentours de Viloco. C'est la fameuse tragédie de Viloco. Viloco est une ville minière de la cordillère des Andes. Dans cette tragédie, 74 personnes vont périr. Le club est totalement anéanti par la douleur et la perte de ses joueurs et de ses dirigeants. Et il y a une douloureuse coïncidence, c'est que ce jour-là, la Bolivie tombe sous la dictature, puisque Alvaro Vandocandia, l'homme qui avait fait exécuter le Che, renverse Luis Adolfo Siles Salinas et prend le pouvoir. Et d'ailleurs, ce télescopage hein, des événements fait le bonheur des théoriciens du complot, qui y voient peut-être une opération secrète destinée à éliminer le club le plus populaire de l'époque pour installer la dictature. Alors bon, hein, on va laisser ça aux théoriciens du complot. Et donc voilà, on imagine alors que naturellement le club, enfin naturellement, que le club en conséquence va s'écrouler. Mais non, il n'en est rien. The Strongest ne va pas mourir et mieux, il va revenir encore plus fort et très rapidement. Rafael Mendoza Castellón est nommé à la tête du club Il va mettre en place une gestion qui va le sauver. Il est appuyé par tout le continent, hein, qui se montre solidaire. On a le Brésil qui organise des Fla-Flous caritatifs pour relever des fonds. Le président de la Conmebol de l'époque lève 20 000 dollars. En Argentine, River joue des matchs amicaux, également à but caritatif. Mais celui qui va véritablement aider The Strongest est un club argentin. C'est le rival de River, c'est Boca Juniors, qui via son président Armando, déclare alors, si The Strongest n'existait pas, il faudrait le créer. Et pour montrer qu'il va plus loin que cette simple phrase, il va organiser un match amical et il va lui prêter deux joueurs, Romero et Luis Zorobastida, qui vont être deux grands acteurs de la reconstruction de The Strongest. Et pour vous montrer à quel point la reconstruction est énorme, The Strongest est champion de la Ligue de La Paz l'année suivante. Il conserve son titre en 1971 et il est même vice-champion national en 70. Donc, un an après les faits. Donc Don Raffo va restructurer complètement le club, acquiert des terrains où il bâtit un complexe sportif, les Tigres débutent et disputent la Libertadores en 1971 et s'installent alors pour toujours dans les sommets du football bolivien. Donc ça vous montre à quel point ce cri de guerre n'était pas un simple cri de guerre, mais un véritable héritage de l'ADN du club. Alors depuis, je le disais, hein, le club joue toujours les premiers rôles. Il est le premier champion de la Liga del Football Professionnel, le championnat actuel, qui a changé de nom cette année, mais qui a été créé en 1977. Il est le deuxième au palmarès historique. Et Raúl Ruiz dira à l'époque, il y aura de nombreux champions qui suivront, mais le premier restera à jamais le Tigre. Ça vous fera peut-être probablement penser à ce que disent certains supporters olympiens. Alors, le club va décrocher un titre un minimum par décennie, il s'installe comme un vrai géant du pays, je l'ai dit, et aujourd'hui, il pointe avec 12 titres nationaux. Il est deuxième au palmarès historique, il a disputé 24 Libertadores, malheureusement sans jamais réussir à passer les huitièmes, et encore hein, cette année, en 2017, il est éliminé en huitième de finale par Lanús, et il a joué 4 Sudamericana, avec comme meilleur résultat un quart de finale en 2003, où il avait été alors éliminé par Sao Paulo. Il n'en reste pas moins que The Strongest est donc un géant. Mais pourtant, en Bolivie, il y a mieux au niveau du palmarès. Et ce mieux, ça s'appelle le Club Bolivar. Alors, comme on l'a invoqué il y a un instant, Bolivar arrive bien plus tard. Ça tombe bien, ça rime. On est en 1925 lorsqu'un groupe de jeunes décide justement de fonder son club. Et d'entrée, ils vont décider de se détacher, de se distinguer du reste des clubs boliviens. Vraiment, l'idée, c'est de se démarquer. Alors vous l'avez sans doute remarqué hein, à l'évocation des noms qui ont été cités précédemment, la plupart des clubs de l'époque portent des noms à consonance britannique, hein, Thunder, Oruro Royal, etc., etc. Et donc là l'idée, c'est tout de suite de faire différemment. En 1925, c'est aussi le centenaire de l'indépendance de la Bolivie. Alors du coup, ils vont se tourner vers des figures historiques qui ont aidé à cette indépendance et naturellement, ils vont tomber sur Simón Bolívar. C'est ainsi que naît le club Atlético Bolívar. Et pour se démarquer davantage, ils ne vont pas que jusqu'au nom, ils choisissent aussi une couleur que personne n'utilise alors au pays, le bleu céleste. En 1927, le club s'inscrit à La Paz Football Association. Il peut donc disputer la Liga de La Paz, que survole alors, hein, vous vous rappelez, nous on l'a dit il y a un instant, que survole alors The Strongest. Les Célestes vont décrocher leur premier titre l'année où la guerre du Chaco éclate. Ils sont sacrés alors que le championnat n'était pas terminé, mais bon, avec l'éclatement de la guerre, il avait été décidé de prendre en compte la situation au moment où la guerre a éclaté. Et au retour de celle-ci, le club va reprendre et va surtout prendre une vraie marche triomphale, puisqu'il va par exemple claquer un tetracampeonato entre 39 et 42, et il s'installe vraiment dans le paysage en attirant quelques-uns des futurs grands joueurs de l'histoire du football bolivien. Le premier étant probablement Victor Ugarte, l'homme qui a débuté avec Bolívar en 47 et surtout qui sera le héros de la finale du Campeonato Sudamericano de 63, la Copa América, hein, donc pour les intimes, qui est remportée par la Bolivie, notamment avec grâce à cette victoire en pseudo-finale face au Brésil 5 à 4. Ugarte marque un doublé ce jour-là. Ce sont ses deux seuls buts de la compétition d'ailleurs. Et c'est à ce jour le seul titre international de la sélection. C'est la seule Copa América de la Bolivie. Bref. Bolívar grandit, s'installe au sommet et devient au fur et à mesure véritablement le concurrent numéro 1 de The Strongest. Alors c'est simple, les deux se tirent la bourre. Lorsque The Strongest décroche le premier titre de l'ère de la Liga del Football Profesional Boliviano en 77, Bolívar lui répond dès l'année suivante. Et depuis, il a véritablement lâché son adversaire. En 40 ans d'existence de la LFPB, Bolívar a décroché 22 titres contre 12 seulement pour The Strongest. Et bien avant les Tigres, les Célestes ont réalisé surtout une première tournée internationale pour un club bolivien. C'était au Chili en 1930 et c'est aussi l'une des marques du club. Le continent, les affrontements continentaux, c'est vraiment son truc, si on peut le dire ainsi. On va faire simple avec des chiffres. 31 participations à la Libertadores, 9 à la Sudamericana. Bolívar a atteint la demi-finale de la grande compétition de la Libertadores en 2014. On s'en souvient tous, c'était face à San Lorenzo. Et surtout, Bolívar est la seule équipe bolivienne à avoir disputé une finale, la Sudamericana 2004, battue par le redoutable duo Martin Palermo-Carlos Tevez. Les Célestes avaient gagné 1-0 à la Paz et s'étaient inclinés 2-0 à la Bombonera. Donc vous voyez déjà une distinction entre ces deux géants. Bolívar, c'est un vrai géant sportif, des titres, des grands joueurs, un énorme palmarès. The Strongest, lui, bon, évidemment, hein, c'est un énorme palmarès, des grands joueurs aussi, mais avec, en plus, une dimension tragique et un mélange, une collusion avec la grande histoire du football bolivien. Alors maintenant, d'où vient la réalité ? Et bah, tout simplement, elle vient du terrain et des tribunes. Et uniquement du terrain et des tribunes. Donc comme on l'a évoqué au début, le tout premier classico de La Paz, le premier classico paseño opposé, The Strongest à Colegio Militar, c'était dans les années 10. Ils se sont un peu chamaillés hein, pendant cette première période partie du siècle et ont divisé vraiment la ville en deux. Colegio Militar va être ensuite remplacé par Universitario de La Paz, qui va être l'un des clubs populaires de l'époque. Et donc le classico paseño devient The Strongest Universitario. Il va durer pendant près de 50 ans, hein, ce vrai classico, jusqu'à véritablement la descente d'Universitario, qui est aujourd'hui très très loin de l'élite bolivienne. C'est grâce à ses succès nationaux et continentaux que Bolívar gagne en popularité, au point d'être le dernier grand rival de The Strongest, et au point de faire que le classico paseño va connaître une troisième version, celle-ci. Alors je vois vos regards, hein, c'est cela aussi l'originalité de notre sommet du week-end. C'est Classico Paseño, c'est en fait un label qui désigne l'opposition entre les deux grands clubs de la ville, du moment ou sur plusieurs décennies, hein, souvent. On peut, par exemple, imaginer que d'ici 40 ans, si un autre club paseño venait jusque-là à doubler en popularité et en titre l'un des deux, il remplacerait l'autre. Mais bon, bon courage quand même aux candidats, parce que là, il y a quand même déjà maintenant une sacrée avance, que ce soit pour The Strongest ou pour Bolívar. Alors le premier classico paseño The Strongest Bolívar n'était donc, vous l'avez compris, pas un classico en tant que tel. Il se joue en 1927 et il se termine sur un score de 0-0. Donc à partir de 32, hein, Bolívar va commencer à gratter, hein, en termes de palmarès et gratter un petit peu sur la place d'Universitario. Et voilà, en 1950, le premier classico de l'ère professionnelle se joue. Bolívar s'impose 4-0. Il va aussi remporter le dernier avant la création de la LFPB, 1-0. Et donc le 15 janvier 1978 se joue le tout premier classico de l'ère moderne, on va dire, en Bolivie. Elle se joue dans le nouveau Hernando Siles qui vient d'être rénové. Alors si vous voulez en savoir plus hein, sur ce stade mythique, je ne saurais que trop vous conseiller de lire l'article qui lui est consacré dans le tout premier numéro du magazine Lucarne Opposée. Ce jour-là, le 15 janvier 1978, The Strongest s'impose 2-1. Alors, il y en a eu de nombreux depuis, vous imaginez, j'ai donné le chiffre hein, en ouverture, on est à 389 aujourd'hui, et on va revenir un petit peu plus tard sur le bilan. Et alors, s'il faut en retenir quelques-uns, on va s'intéresser principalement à celui de 1994 et qui compte pour la Copa Libertadores. Il faut savoir que jusqu'ici, les deux équipes ne se sont croisées qu'à 4 reprises hein, dans cette épreuve. Et à chaque fois, ça s'est terminé par un 0-0. Et notamment cette année-là, en 1994, puisque The Strongest et Bolívar étaient dans le même groupe, ils s'étaient séparés à l'aller comme au retour sur un 0-0. Le hasard fait bien les choses. On en a un petit peu marre des matchs nuls entre ces deux équipes-là. Donc, on va les faire s'opposer en 8e de finale. Et du coup, il faudra vraiment que quelqu'un s'impose. Et là, enfin, les filets vont trembler. Bolívar va s'imposer 2-1 au match aller, doublé de Victor Lugo Antelo, alors probablement l'un des plus grands buteurs hein, de l'histoire du football bolivien, et qui aujourd'hui fait un travail d'entraîneur exceptionnel à Guabira. On l'évoque assez régulièrement dans nos articles. Et donc Bolívar s'impose 2-1 à l'aller, sur entre guillemets, le terrain de The Strongest, et lamine les Tigres 4-0 au retour, avec notamment un doublé d'une autre grande figure du football bolivien, Julio César Bardivesi. Alors c'est à ce jour le dernier duel entre ces deux géants en Libertadores. Ils se sont depuis croisés en Sudamericana. Et là, c'est pile poil l'inverse. The Strongest s'est qualifié à 2 reprises. La dernière fois, c'était en 2005. Et alors donc depuis, ils se concentrent sur des chamailleries purement locales, hein. Ils ne s'affrontent plus qu'en championnat. Et évidemment, ce sont toujours des grands moments, toujours les très grands moments d'une saison qui embrase l'Hernando Siles. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit point statistique. On a probablement affaire là à l'un des classicos les plus déséquilibrés du continent. Alors, jugez plutôt, en 389 affrontements, ouais, quand même, Bolívar mène 165 victoires à 96 pour 128 matchs nuls. Donc, il y a un écart considérable, toutes compétitions confondues. L'écart est assez énorme aussi hein, depuis l'ère moderne, donc l'ère LFPB de 1977, puisqu'on est à 86-51 en faveur des Célestes pour 70 matchs nuls. Allez, je vous laisse avec un dernier chiffre concernant notre classico. The Strongest, pour montrer à quel point Bolívar a pris le dessus, The Strongest reste sur une mauvaise série, une seule victoire lors des 10 derniers pour 5 défaites et 4 nuls. Donc vous imaginez que suite dimanche va être encore une fois de plus chaud, fort en symbole pour The Strongest. Et pour vous donner une idée, hein, il oppose tout simplement les deux derniers champions des trois derniers tournois boliviens. Puisque The Strongest a gagné l'Apertura 2016 devant Bolívar, alors que Bolívar a gagné le Clausura et l'Apertura suivant devant The Strongest. Voilà, vous avez compris. Donc voilà, c'est le rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer. C'est donc dimanche à 22h15 heure française, l'épisode 390 du Classico Paceño entre The Strongest et Bolívar. Comme d'habitude, je vais vous laisser avec les buts en VO, alors pas ceux du dernier, puisque le dernier s'est soldé par un 0-0, mais ceux du précédent, qui s'est soldé sur une victoire 2-1 de Bolívar. Vous allez voir que tout s'est joué dans le dernier quart d'heure, c'était en septembre dernier. Allez, abrazo a todos et à la semaine prochaine.
Compañero, para levantarlo en el ánimo particularmente, saltaba el hombre del Tigre, le va a quedar atención a Cirino, Cirino midiendo el pase, vendrá para el Conejo, está habilitado, atención, viene el Conejo, qué golazo, ¡qué! Puso en el aire y el Conejo no le puede dar espacio y convierte que está en offside, señoras y señores. La acción de gol que llega con el Conejo y mide, como diciendo, tuve la primera y la mandé a guardar. Esquinado, no llegaba ni Spider-Man y está ganando la Academia ante el delirio de su público. Justiniano, el balón que juega el conjunto gualdinegro. Se viene ahora Marvin Bejarano, lo tira, atención, cerquita Chuma, prefirió tirar el centro, pasado, va a llegar. Está en el área para igualdad, golazo. ¡Gol! Se tiene fe el que levanta el centro. Es Marvin Bejarano, señoras y señores. Y la bajan en el área. Era Diego Bejarano. Gran puente aéreo. Y Vargas define en el medio de los defensores para igualar la cuenta. Qué partidazo en el segundo tiempo. 1-1. Desde Bolívar. Se viene Riquelme. Atención, viene Riquelme. Viene Marcos. La tiene Riquelme. Lo frenó Valverde para que no llegue al área. La juega Riquelme, buen taco, atención, se viene Morales, pide Fierro, el centro está para el segundo. Señoras y señores, y una volea tremenda, va al techo, rebote en el arquero de infortunio en Daniel y se mete, pero la jugada fue hermosa del conjunto de Bolívar. Cante hincha de la Academia en 42, le gana el tercer clásico del año al plantel gualdinegro. Fierro lo hizo, siempre está en el lugar preciso. El gol lo hizo Juan Eduardo para la victoria del Bolívar.